Vous écoutez RFI, il est 8h à Paris et à Cannes, 9h à Ankara.
Andréane Mélard.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
On ouvre la presse turque ce matin.
Elle ne manque pas de réagir après l'annonce hier par le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui se dissout la fin de plusieurs décennies de lutte armée contre l'État turc. Le président américain Donald Trump entame une tournée dans le Golfe ce mardi. Il ne devrait pas échapper à des discussions sur Gaza, où l'armée israélienne a bombardé un hôpital cette nuit. Gaza, où a lieu un génocide, disent plusieurs dizaines de stars du cinéma mondial dans une tribune. Une signée dans le journal Libération, elle dénonce d'une même voix le silence du monde, le tout alors que s'ouvre le festival de Cannes. Et hasard du calendrier, c'est aussi aujourd'hui que l'acteur français Gérard Depardieu sera fixé sur son sort, poursuivi pour agression sexuelle. On en parlera. On parlera aussi de cette émission télé à laquelle participera ce soir le président français Emmanuel Macron, avec peut-être à la clé l'annonce d'un référendum. Et puis on vous donnera aussi des nouvelles d'une jeune Nigérienne, Yasmina Boubacar, atteinte du syndrome de la personne raide. Son histoire avait ému le pays tout entier. Elle va beaucoup mieux.
C'est une étape critique de franchie, se félicite le président turc.
Une décision importante pour le maintien de la paix et de la fraternité dans le pays. Première réaction hier soir de Recep Tayyip Erdogan, quelques heures après l'annonce du PKK. Le parti des travailleurs du Kurdistan se désarme et se dissout, comme le lui avait demandé son fondateur historique Abdullah Öcalan depuis sa prison fin février. C'est la fin de près d'un demi-siècle de guerre contre l'État turc. Bonjour Anand Lauer.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Istanbul, vous vous êtes plongée dans la presse turque ce matin pour voir comment l'annonce a été accueillie en Turquie. Et comme toujours, Anne, ça divise en deux camps.
Oui, alors dans les journaux qui soutiennent le gouvernement, on se félicite d'une victoire de la Turquie sur le terrorisme. Game over, titre Milliette, au-dessus d'une photo de chef militaire du PKK. Un avenir radieux nous attend pour Sabah, qui avance ce chiffre. 2000 milliards de dollars, c'est ce que la guerre aurait coûté à la Turquie, qui s'apprêterait désormais à vivre, je cite, des développements historiques dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie. L'ère de 50 ans de terrorisme s'est refermée. Veut croire pour sa part Hürriyet, sur le même ton optimiste que le reste des journaux proches du président Erdogan. Du côté de la presse d'opposition cette fois, l'heure est plutôt au doute, ou moins aux mises en garde. Le pouvoir n'a pas tardé à révéler ses intentions, selon Birgun, qui pense que Tayyip Erdogan va utiliser la disparition du PKK, non pas pour assurer la paix sociale, mais pour consolider son pouvoir. Plus aucun prétexte, selon Evrensel. Le journal explique que le pouvoir n'a plus l'alibi aujourd'hui du terrorisme pour refuser les demandes démocratiques, à commencer par celle, dit-il, du peuple kurde. Sözcü, enfin, accuse le PKK de mettre fin à sa lutte en Turquie pour mieux se développer dans le nord-est de la Syrie, où les forces kurdes proches du PKK contrôlent environ un tiers du territoire.
Merci, Anand Lauer, correspondante de RFI en direct d'Ankara.
L'Arabie Saoudite comme premier déplacement majeur à l'étranger.
C'est le choix qu'avait fait Donald Trump lors de son premier mandat, et c'est le choix qu'il fait à nouveau, cette fois près de 4 mois après son retour à la Maison-Blanche. Il est en route pour Riyad, première étape de sa tournée dans le Golfe. Il ira aussi au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. À la clé, des accords économiques, mais un large volet diplomatique aussi, alors que les bombes continuent de tomber à Gaza. Cette nuit, c'est un hôpital de Khan Younes qui a été pris pour cible par l'armée israélienne, qui dit avoir frappé un centre de commandement et de contrôle du Hamas. Le mouvement évoque plusieurs patients tués, notamment un journaliste palestinien.
Une frappe après, une pause.
Courte, c'est vrai, quelques heures seulement, le temps que le Hamas libère l'otage israélo-américain Idan Alexander, enlevé le 7 octobre 2023. Sa libération retransmise sur écran géant, place des otages à Tel Aviv, a été accueillie par des applaudissements et des larmes. Mais à Jérusalem, on n'oublie pas celles et ceux qui sont encore détenus dans la bande de Gaza. Reportage de Michel Paul.
Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous, scandent des manifestants venus soutenir les familles des otages. Partagé entre la joie et une profonde inquiétude, après la libération d'Idan Alexander, il faut continuer sans s'arrêter pour le retour de tous, affirme le Forum des familles des otages encore retenus à Gaza. 20 d'entre eux sont présumés être vivants. Particulièrement virulente, Enav Zangauker, la mère de Matan.
Je te le promets, Netanyahou. Si tu ne mets pas fin à la guerre maintenant et que mon fils est tué à cause de toi en captivité, je te poursuivrai jusqu'à ton dernier jour. Et je ne serai pas seule.
Spontanément, un rassemblement s'est formé face au consulat des États-Unis pour réclamer le retour de tous les otages, notamment ceux qui ne possèdent que la seule nationalité israélienne. Yehuda est le père de l'otage, Nimrod Cohen.
I'm calling President Donald Trump.
J'en appelle au président Trump. Après avoir relancé la libération des otages, à commencer par le ressortissant américain Eden Alexander, de continuer et de ramener tous les otages à la maison.
Et sur des pancartes, on pouvait lire « In Trump we trust », « Nous avons confiance en Trump », une paraphrase de la devise des États-Unis. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et Gaza s'invite à Cannes.
Le 78e festival de cinéma s'ouvre ce soir dans cette ville du sud de la France. Et avant de monter les marches, plusieurs dizaines de personnalités prennent la plume dans le journal Libération. Elles signent une tribune pour appeler à ne pas passer sous silence ce qu'il se passe dans l'enclave. Bonjour Isabelle Chenu.
Bonjour.
Vous êtes l'une de nos envoyées spéciales à Cannes. Le strass et les paillettes, ce sera pour ce soir. Pour l'instant, ce matin, c'est la géopolitique qui prend le dessus.
Oui, vous savez, le Festival de Cannes est souvent une caisse de résonance d'un cinéma d'auteur mondial toujours très politique. Cette année, Le Monde poste 7 octobre 2023. Après l'attaque du Hamas en Israël et la terrible répression à Gaza toujours en cours est évidemment au centre des engagements. Nous, artistes et acteurs de la culture, nous ne pouvons rester silencieux tandis qu'un génocide est en cours à Gaza, clame le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, les acteurs américains Suzanne Sarandon ou Richard Gere dans le quotidien français Libération. 380 signataires, des grands noms du cinéma. Certains ont reçu des palmes d'or, d'autres sont en compétition ici à Cannes cette année même. À noter que l'ouverture du festival ce soir doit être marquée par la palme d'or d'honneur remise à l'américain Robert De Niro, légende vivante du cinéma et opposant déclaré au président américain Donald Trump. Et puis c'est à une autre guerre, celle menée par la Russie en Ukraine, que le festival consacre sa journée d'ouverture avec la projection de 3 documentaires.
Merci Isabelle Chenu, envoyée spéciale de RFI à Cannes.
Et pendant le festival se tient le marché du film, un vrai business sur lequel on revient dans Aujourd'hui l'économie après ce journal avec Stéphane Geneste. Sur le tapis rouge, on ne manquera pas en tout cas de commenter l'actualité judiciaire.
Car hasard du calendrier, c'est ce matin que l'on doit connaître le jugement du tribunal correctionnel de Paris contre Gérard Depardieu. Le procès de l'acteur français aura duré 2 mois. Il est accusé d'agression sexuelle par 2 femmes qui travaillaient à ses côtés pendant un tournage. Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis, mais aussi une obligation de soins psychologiques et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Marie Cazadebé.
Au cours d'un procès exceptionnellement long pour des faits d'agression sexuelle, 4 jours, la version de Gérard Depardieu a sensiblement évolué. Alors qu'une décoratrice l'accuse de l'avoir coincé entre ses jambes, de lui avoir malaxé le ventre et la poitrine, tout en lui tenant des propos à connotation sexuelle, l'acteur nie d'abord tout contact physique, puis il évoque un geste malheureux pour éviter de tomber et enfin précise l'avoir simplement frôlé dans un couloir étroit. Être l'auteur d'agression sexuelle, ça non, le comédien l'a toujours contesté, d'autant que de son propre aveu, il ne sait pas vraiment ce qu'est une agression sexuelle. Mais ce n'est sûrement pas cela, lâche-t-il à propos des faits dénoncés par les 2 plaignantes. Tout au long de ce procès, c'est le portrait d'un homme vulgaire, à l'insulte et la blague graveleuse facile, craint sur le plateau qui s'est dessiné, un homme dépassé par son temps, reconnaît-il. Sa propre défense est ambiguë, il répète préférer travailler avec des hommes en loge, car avec les femmes, selon ses mots, il y a toujours des problèmes.
Le délibéré est attendu à 10h, heure de Paris.
L'Australie parle d'un moment historique.
Quand le gouvernement néerlandais y voit un signe que les États ne peuvent pas violer le droit international sans conséquence, l'agence de l'ONU pour l'aviation civile a jugé que les plaintes de ces 2 pays étaient fondées en fait et en droit. Ça veut dire qu'elle reconnaît la responsabilité de la Russie dans le crash du MH17. C'était en 2014 au-dessus de l'Ukraine. L'appareil avait été abattu par un missile de fabrication russe au-dessus d'un territoire aux mains des séparatistes pro-russes. 198 passagers et membres d'équipage avaient été tués. Pour l'agence onusienne, la Russie n'a pas respecté ses obligations en vertu du droit aérien international. En 2023, déjà, une équipe d'enquêteurs internationaux avait conclu que Vladimir Poutine avait probablement approuvé la fourniture du missile responsable du crash.
Un long exercice de questions-réponses, voilà ce qui attend Emmanuel Macron ce soir.
Le président français sera sur la chaîne TF1 pour une émission spéciale. Face à lui, un présentateur bien sûr, mais aussi des personnalités de la société civile, influenceurs, chefs d'entreprise, leaders syndicaux, un casting large, aussi large que les thèmes qui devraient être abordés. Exclu du jeu politique depuis sa dissolution ratée de l'Assemblée nationale, le chef de l'État veut montrer qu'il a encore des choses à dire en français et que s'il lui reste 2 années de mandat, eh bien il ne compte pas se limiter aux sujets internationaux. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a repris du poil de la bête. Ceux qui le côtoient, notamment au Conseil des ministres, l'ont constaté. Le président est beaucoup plus interventionniste ces derniers temps. Et personne ne s'y trompe. L'effet repoussoir de la dissolution est en train de s'estomper. Il a marqué des points à l'international. François Bayrou ne lui fait pas d'ombre. Emmanuel Macron estime que c'est le bon moment pour se réinvestir dans le national. C'est évident, résume une ministre, quand une autre raconte la volonté intacte du chef de l'État de travailler jusqu'au dernier jour du quinquennat. L'émission de ce soir est donc un point d'entrée dans une reprise de dialogue avec ses concitoyens grâce à un format sur mesure pour un président qui aime argumenter et montrer qu'il connaît tout sur tout. Des débats thématiques avec des personnalités comme la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur les retraites, des interpellations notamment du journaliste Charles Biétry atteint de la maladie de Charcot sur la fin de vie, l'annonce probable d'un référendum pour redonner la parole aux Français, un exercice médiatique en forme de performance et de pari qui n'est pas gagné d'avance, mais peu importe selon un autre membre du gouvernement, car Emmanuel Macron a l'amour du risque.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Cette histoire maintenant qui avait ému les Nigériens, celle de Yasmina Boubacar, une jeune étudiante atteinte du syndrome de la personne raide, lui provoquant des raideurs musculaires et des spasmes douloureux. Une maladie incurable, bien qu'elle puisse quand même être soulagée par des traitements. Il y a environ 2 mois, ses proches avaient lancé une cagnotte en ligne pour financer son évacuation afin de recevoir des soins à l'étranger. Eh bien ça y est, elle a pu le faire en Turquie, Magali Lagrange.
« Je vais beaucoup mieux », écrit Yasmina. Sa dernière crise date d'il y a presque 1 mois. L'étudiante a pu être évacuée vers la Turquie où elle a reçu 2 traitements qui ont permis de stabiliser son état de santé. C'est sur les réseaux sociaux que Yasmina a choisi de donner des nouvelles, là où la mobilisation a commencé pour obtenir les fonds nécessaires à sa prise en charge. La campagne lancée par ses amis a permis de récolter 116 millions de francs CFA, l'équivalent de 176 000 euros, en plus de plusieurs offres de stage. « J'ai reçu bien plus que je n'aurais jamais osé imaginer », poursuit Yasmina avec beaucoup d'émotion face à un élan exceptionnel de compassion. Opérateurs économiques, fondations anonymes ont contribué. Sa première évacuation sanitaire, précise-t-elle, a été prise en charge par le ministère nigérien de la Santé. Les fonds récoltés serviront pour la suite car le combat de Yasmina contre la maladie continue. La jeune femme doit encore prendre un traitement oral. Elle devra ensuite réaliser des examens de suivi et retourner en Turquie dans 6 mois.
Précision de Magali Lagrange. Et puis le Bénin va retrouver son cataclé, un siège royal à 3 pieds provenant du Dahomey, disparu pendant de longues années, avant d'être retrouvé au Musée National de Finlande après un long travail de recherche auquel RFI a contribué d'ailleurs. Ce trésor, la 27e pièce du trésor royal d'Abomey, va être donc remis tout à l'heure aux autorités béninoises. Ce sera lors d'une cérémonie au siège de la présidence. Et ce sera notre dossier du jour dans le journal de 9h de Paris.
Nous appellerons Pierre Firsion sur place à Cotonou. Merci Gaëtan Plenet. Cotonou, où il est 7h13. L'heure d'un nouveau journal des sports avec vous, Antoine Grenier. C'est déjà le transfert de l'année chez les sélectionneurs. En tout cas, c'est officiel. Carlo Ancelotti va rejoindre le Brésil.
Un mariage de prestige entre une Seleção à la recherche d'un second souffle, en quête d'un trophée depuis 2019, et un entraîneur qui, s'il reste sur une déception avec le Real, a glané 15 titres dans sa carrière, dont 3 Ligue des Champions. Ancelotti au Brésil, une très bonne idée pour le consultant Radio Foot Hervé Penaud.
C'est non seulement une bonne idée, mais c'est une très bonne idée. Parce que Carlo Ancelotti, d'une certaine manière, il lui manquait un peu ça, cette grosse sélection nationale, pour un peu valider un parcours hors norme, qui fait de lui, si ce n'est le plus grand technicien, en tout cas l'un de ceux qui a le plus marqué l'histoire du football. Alors peut-être pas tactiquement comme un Pep Guardiola, mais d'une autre manière, avec alors une connaissance tactique évidemment très pointue, parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là sans ça, et un management, une manière de gérer les humains assez exceptionnelle, assez incroyable. D'ailleurs, tous les joueurs qui sont passés entre ses mains ont toujours dit Ancelotti, ça restera une référence pour ceux qui l'ont eu. Donc aujourd'hui, il franchit le cap et avec une sélection nationale, et pas n'importe quelle sélection nationale, vraiment la sélection nationale. Tout le monde a envie de revoir le Brésil au très haut niveau. Et on se dit, eh ben tiens, s'il y a bien un entraîneur qui est capable de remettre tout ça sur les bons rails, eh bien c'est bien Carlo Ancelotti.
Hervé Penaud avec Olivier Pron. Premier match pour Carlo Ancelotti avec la Seleção le 5 juin prochain face à l'Équateur dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.
En attendant, l'Italien dirigera ses derniers matchs avec le Real Madrid. Madrid et un mince espoir de remporter le titre de champion d'Espagne.
Alors, le fil est mince, l'équilibre instable, mais le Real disputera mercredi un match décisif contre Majorque dans le cadre d'une 36e journée de Liga qui démarre ce mardi. Trois rencontres qui concernent la deuxième partie de tableau. Valladolid, déjà relégué, accueille le 15e Gérone. Déplacement du Celta Vigo au Pays Basque pour affronter la Real Sociedad. Le FC Séville, 16e au classement, reçoit l'avant-dernier Las Palmas.
En NBA, le champion en titre au bord du gouffre.
Boston, battu 121 à 113 par les Knicks de New York, n'est plus qu'à un match de l'élimination dans sa série. Et les ennuis volant en escadrille, les Celtics ont perdu leur élément majeur, Jason Tatum, auteur de 42 points cette nuit, mais il s'est blessé au pied droit et pourrait être absent lors du prochain match. Dans l'autre série, les Timberwolves de Minnesota font le break avec une troisième victoire cette nuit sur les Golden State Warriors, 117 à 110.
En tennis, le Masters 1000 de Rome et la montée en puissance d'Arthur Fils.
Le Français prend de la confiance dans ce dernier gros tournoi sur terre battue avant Roland-Garros. En 16e de finale, il s'est offert le grec Stefanos Tsitsipas et il affronte ce mardi en 8e de finale l'allemand Alexander Zverev, numéro 2 mondial, un sacré morceau donc.
Je vais devoir battre Sacha, c'est vrai, Sacha il est numéro 2 ou 3 mondial, il est tenant du titre ici à Rome, c'est l'un des meilleurs joueurs sur terre battue, mais si je veux gagner ce genre de tournoi, il faut gagner ces matchs-là. Je vais essayer de le battre et de me qualifier pour les quarts de finale et on verra bien jusqu'où je peux aller.
Arthur Fils, Alexander Zverev, première balle prévue vers 15h temps universel, une journée de 8e de finale qui débutera vers 9h TU avec Corentin Moutet face au Britannique Jack Draper.
Antoine Grenier, merci à vous. Et tout de suite, c'est notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie avec vous, Stéphane Geneste, bonjour.
Bonjour Andréane.
On vient d'en parler dans le journal, on y était même, la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes se tient ce soir, le plus grand festival de cinéma au monde à vivre sur RFI avec nos envoyés spéciaux, nos spécialistes maison jusqu'au 24 mai prochain, date de la remise de la Palme d'Or. 10 jours lors desquels il va être question de cinéma, bien sûr, mais aussi de son économie, car au même moment, se tient sur la croisette le marché du film.
Oui, c'est le plus grand rendez-vous professionnel de ce type au monde. Oubliez le tapis rouge, les photographes et les petits fours en coulisses, puisque là, on va parler affaires. 15 000 professionnels y sont accrédités, 4 000 films et projets représentés. En fait, Andréane, c'est là que vont se négocier les droits de distribution des films que vous verrez dans les prochains mois. Les coproductions internationales y sont montées et les tendances de demain y sont repérées. Bref, producteurs, distributeurs et acheteurs arpentent les stands et les salons pour décider quels films feront l'actualité des écrans de l'année à venir.
L'occasion pour nous de faire un point sur l'état de ce marché justement, car vous avez eu accès en exclusivité pour RFI, Stéphane, au rapport annuel de l'Observatoire européen de l'audiovisuel.
Exactement, rapport publié dans les toutes prochaines minutes. Et ce que l'on peut affirmer ce matin, c'est que même si 2024 a été une année exceptionnelle en ce qui concerne les productions, ce n'a pas été l'année du boom espéré par les professionnels. Pour autant, le box-office mondial a généré tout de même 28,1 milliards d'euros, mais c'est en chute, hein, chute de 9% par rapport à 2023. Deux géants connaissent des baisses significatives. La Chine d'abord qui perd 24% de ses recettes. Et les États-Unis, moins 4%, situation expliquée par les grèves à Hollywood des derniers mois qui ont gelé la production et qui ont retardé la sortie de blockbuster. Côté gagnant, on va retenir l'Inde, le Royaume-Uni ou encore la France qui restent des places solides sur ce marché.
Mais Stéphane, c'est aussi un sujet qui sera largement évoqué durant ce marché du film à Cannes. Le cinéma aujourd'hui, ce n'est plus seulement des projections en salle.
Oui, et les professionnels du secteur l'ont intégré car toujours d'après l'Observatoire européen de l'audiovisuel, un tiers des films disponibles en vidéo à la demande, en VOD, sont européens. Les plateformes de streaming sont donc essentielles à la diffusion de ces longs métrages, qu'ils soient uniquement destinés à ces canaux ou qu'ils aient connu une vie en salle avant d'ailleurs. Pour les exploitants, à savoir les cinémas en tant que tels, les conséquences sont bien là. Et oui, Andréane, le temps que l'on passe sur son canapé à regarder un film à la télé n'est pas celui que l'on passe en salle.
Et c'est donc l'un des défis du secteur.
Exactement. On notera aussi le renforcement des partenariats publics-privés pour financer différents projets, mais aussi la promotion de la coproduction internationale afin de mutualiser les coûts et donc d'ouvrir à de nouveaux marchés. Car finalement, le cinéma, on l'a dit, ça reste un marché avec des acteurs importants qui sont tout de même en concurrence et dont le premier rôle est très convoité.
Merci Stéphane Genest. On continue de parler du Festival de Cannes. Ce matin, notre question d'environnement aujourd'hui, peut-on faire un Festival de Cannes écologique? Verdict avec Florent Guignard dans un petit peu plus d'une heure. Pour l'instant, il est 8h20 à Paris et c'est notre invité. En ligne ce matin de Tel Aviv avec Arnaud Pontus, l'historien, Élie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France.
Bonjour Élie Barnavi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'otage israélo-américain Eden Alexander a été libéré hier. Il était retenu depuis le 7 octobre 2023. C'est le premier otage à sortir vivant de la bande de Gaza depuis le 22 février. Que vous inspire sa libération ?
Eh bien, je suis heureux pour lui, pour sa famille. Et en même temps, je ne peux pas ne pas constater que c'est une claque à l'honneur national israélien. Et c'est la preuve que l'ambassadeur, le passeport américain vaut plus qu'un passeport israélien. Il est sorti grâce à son passeport. Il est sorti d'ailleurs, la négociation se fait derrière le dos de notre valeureux Premier ministre à son insu, et Trump s'est occupé de son ressortissant en ignorant complètement ses camarades laissés à l'arrière.
Oui.
Enfin, tout cela laisse un goût amer, bien que, encore une fois, je sois très heureux pour la famille de ce garçon qui n'y est pour rien.
Oui, cette libération, elle est donc intervenue après des discussions directes entre le Hamas et les Américains. Ça veut dire que le gouvernement israélien a été mis hors jeu, Élie Barnavi.
Il a été mis hors jeu, il continue d'être mis hors jeu. Vous imaginez un instant ce qui se serait passé au moment de l'époque de l'administration Biden, si le président Biden avait osé faire une chose pareille, ça aurait été une révolution ici. Et une révolution chez lui, puisque Netanyahu aurait manipulé le Parti républicain contre le président. Maintenant, il est coincé, il n'y a rien à la droite du père. Et donc, il est obligé de faire avec, mais la libération de Eden Alexander n'est qu'un aspect du problème. Il y a la négociation avec les Saoudiens, avec les Émiratis, la promesse d'une assistance nucléaire aux Saoudiens contre l'avis évidemment de Jérusalem. Il y a la négociation directe avec les Houthis et la conclusion d'une cessation des hostilités entre l'organisation terroriste yéménite et les États-Unis, là oui. Encore en laissant Israël à l'arrière. Bref,
ça va bien au-delà.
C'est l'ensemble.
Oui, ça va bien au-delà.
Bien sûr, ça va bien au-delà.
Et c'est donc l'un des symptômes de ce que l'on constate. Donald Trump qui entame dans quelques heures une tournée dans le Golfe, premier grand voyage à l'étranger depuis sa réélection. Les États, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, et on observe qu'il n'ira pas en Israël. Qu'est-ce qui se passe entre Trump et Netanyahou?
Eh bien, ça fait longtemps que ça ne va pas très bien. Je veux dire, ça remonte au moment de l'élection de Biden, quand Trump a perdu les élections présidentielles et que Netanyahou, après une longue hésitation, a quand même pris le téléphone pour féliciter Joe Biden de son élection. Et ça a été suffisant pour tomber dans la faveur de Trump qui a vu une trahison. On en est là, si vous voulez, on est à un niveau très bas de considération internationale.
Oui, on n'est plus dans la diplomatie, on est dans les relations purement personnelles en quelque sorte, et la brouille.
On est dans le banc de sable, c'est-à-dire à partir du moment où vous devenez aux yeux de Trump un loser, un perdant. Vous êtes fichu. Or, et qui plus est, bon, ça il faut quand même dire, c'est quand même plus sérieux. Netanyahou gêne des projets de Trump dans la région, qui sont des projets, comme toujours, économiques, des projets immobiliers, des projets qui n'ont rien à voir avec les intérêts des peuples dans la région. Mais c'est ainsi. Et donc, je suis bien obligé de constater que l'espoir que nous avons d'une conclusion de cette guerre qui est devenue une pure absurdité à Gaza et la résolution du problème des otages et au-delà peut-être l'esquisse d'une sortie de la crise du Proche-Orient passe par les intérêts personnels d'un homme comme Trump. C'est comme ça, voilà.
Ça vous désole de toute évidence, c'est libre à ma vie.
Écoutez, si ça pouvait être, ce serait formidable. Et oui. Peu importe par qui arrive le salut.
Tant pis, pourvu qu'il y ait le résultat, en quelque sorte, Elie Barnaby.
Absolument, c'est ça. Absolument.
Quand en février, à Washington, Benjamin Netanyahou disait à Donald Trump « Vous êtes le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche », il essayait de se rassurer ou c'est que ça n'était déjà plus vrai?
Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Netanyahou. C'est-à-dire, il sait au moins une chose, c'est que l'homme, enfin Trump, a besoin de... S'il n'a pas ça, il perd au moins intérêt, sinon davantage. Il a fait ce qu'il fallait.
Vous disiez espérer une sortie de cette guerre à Gaza, peut-être par Donald Trump, après tout. Pourquoi pas, dites-vous, en quelque sorte. Qu'espèrent les Israéliens de la tournée qu'entame Donald Trump dans les prochaines heures?
Écoutez, pour plus de 70% d'entre eux, ils attendent ce que moi j'en attends, c'est que c'est résoudre en fait, sortir enfin du cauchemar de Gaza, du cauchemar des otages à Gaza, et même pour ceux qui ne voient pas au-delà une solution pour les Palestiniens, vous savez ça, c'est peu de gens véritablement y pensent en ce moment, mais voilà ce qu'ils espèrent, ils espèrent que Trump force Netanyahou à arrêter la guerre et à libérer les otages. Et nous verrons bien ce qui va se passer. En fait, on ne sait pas encore, parce que, vous savez, avec Trump, tout peut arriver.
Oui, il est difficile à suivre.
Voilà, mais la direction semble plus ou moins claire. Je pense qu'il sait... Et que la conclusion de ces accords commerciaux gargantuesques passe par au moins une accalmie à Gaza. Oui. Les Saoudiens vont lui demander, les Qataris aussi. Les Qataris qui, en passant soit dit, viennent lui offrir un joujou de 400 millions de dollars, un avion privé.
Un avion, oui.
On est là dans des niveaux de corruption stratosphérique. Enfin, c'est incroyable tout de même ce qui se passe, mais enfin, très bien. S'il faut ça pour contenter l'ego de Trump, très bien, je suis preneur. Donc, nous verrons très bien dans les heures qui viennent, nous verrons si ce voyage aura été utile pour commencer à résoudre le problème de Gaza et pour sortir cette région du cauchemar dans laquelle il se trouve.
Ce qui veut bien dire que la stratégie du gouvernement israélien n'a pas été la bonne. Est-ce que le gouvernement israélien de Netanyahou s'est enfermé dans une folie guerrière depuis le 7 octobre?
Mais il n'y a pas de véritable stratégie, puisque une stratégie suppose un but de guerre, quelque chose. Or, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a une espèce d'emballement dont le but est purement politique ou politicien. Il faut sauver à tout prix la coalition au pouvoir. Oui. Et Netanyahou sait très bien que s'il arrête la guerre, il perdra sa coalition, puisque les membres les plus extrêmes de son gouvernement la quitteront. Et donc, on est pris vraiment
dans une espèce de
folie, alors que les généraux nous disent depuis un an et demi, trois mois après le début de la guerre, on savait déjà que cette guerre avait épuisé ses effets.
Merci à vous, Elie Barnaby. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous ce matin.
Priorité Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les problèmes de vue chez l'enfant pour un dépistage précoce.
Demain,
morsure de serpent, savoir réagir en cas d'envenimation.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Une femme écoute la radio, loin de chez elle, fébrilement pour avoir des nouvelles du monde et de son pays. Une histoire de bruit et de silence, une histoire d'exil. Aimée en stéréo est la nouvelle pièce de l'haïtienne Gaëlle Bien-Aimée, autrice et artiviste comme elle aime à se définir.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Que disent nos mots ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Comment le cerveau appréhende les mots ? Comment les bébés apprennent-ils le sens des mots ? Interrogation ouverte par le chercheur Xavier Alario dans un essai percutant. L'esprit des mots pour une nouvelle neuroscience du langage. Esprit, es-tu là, déjà, dans nos mots ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU